Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, retour sur l'affaire Tarnac. Un dossier, deux récits. L'événement, l'emballement des premières semaines, l'arrestation, puis le temps plus long de l'enquête, des avocats, eu des délitements des preuves contre les neuf inculpés, deux discours, deux histoires. 10 ans de procédure et 27 000 pages de dossiers plus tard, c'est-à-dire en ce mois d'avril 2018, les accusés sont relaxés. Le parquet de Paris ne fera pas appel du jugement du tribunal. Alors, était-ce cela, Tarnac ? Une paranoïa d'État ? L'arrestation de 9 personnes à qui l'on attribue le sabotage de voies ferrées, sans preuve, sans aveu ? Car dans ce dossier, des gens ont été poursuivis non pas sur la base d'un délit matériel déterminé, mais en fonction d'un scénario virtuel construit par l'imaginaire du pouvoir et la gestion du risque terroriste, y compris lorsque celui-ci n'existe pas. Des gens condamnés pour ce qu'ils pensent et la dangerosité présumée de ce qu'ils pensent. L'affaire Tarnac, un récit diffusé dans Affaires Sensibles en 2014. Il faut avoir cela à l'esprit en l'écoutant. C'était il y a plus de 4 ans. Notre invitée aujourd'hui, en direct, pour un nouveau regard, Marie Dauzet, avocate de l'une des accusées, Yvonne Lévy, qui définissait récemment sur France Inter la justice antiterroriste comme une machine à broyer. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyen Guyenne, Jérôme Chélius et David Jacuboviez.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles.
La femme qui se cache sous son bonnet et encadrée par des policiers cagoulés est l'une des 10 personnes placées en garde à vue ce matin.
Alors qui sont ces hommes et ces femmes qui se situent à la marge donc de l'extrême gauche ?
Ils sont l'ultra-gauche, en marge du champ politique, prêts à une contestation radicale, violente.
Projet d'attentat.
Vous avez des petits groupes qui envisagent la lutte individuelle, l'acte individuel.
La lutte armée.
Qui rejettent l'élection, qui sont beaucoup plus radicaux.
Extrême gauche radicale.
Ce qui en jargon anarchiste signifie l'acte terroriste.
Tapis dans l'ombre.
Par 2 fois au moins, les membres du commando ont été repérés, rôdant autour des voies ferrées.
Tapis dans l'ombre.
Sur les lieux mêmes des sabotages.
À Tarnac, en Corrèze.
Ils appellent la cellule invisible.
Tapis dans l'ombre.
Le 7 novembre 2008, des fers à béton sont retrouvés sur des caténaires de lignes TGV, notamment à Duisy, en Seine-et-Marne. Le lendemain, près de 20 000 personnes restent à quai suite à des retards sur plus de 150 trains. 4 jours seulement après les faits, le 11 novembre, un communiqué du ministère de l'Intérieur, dirigé alors par Michel Alliomari, annonce l'arrestation, dans un village de Corrèze nommé Tarnac, de présumés saboteurs, tous membres de la mouvance de l'ultra-gauche. Ces faits remontent à bientôt 6 ans. Et pourtant, l'affaire, si rapidement et si fièrement menée, court toujours. Oui, 6 ans, pendant lesquels le parcours, les rencontres, les amours, les lectures, les voyages, les idées politiques, la vie de 9 personnes a été disséquée, analysée, placée sous les projecteurs des ministères et des médias. Aujourd'hui, aucun jugement n'a encore été prononcé dans l'affaire dite « Affaire Tarnac ».
La lutte armée.
Politique et terroriste.
Tapis dans l'ombre.
Au petit matin du 11 novembre 2008, l'épaisse brume ne s'est pas dissipée sur le petit village de Tarnac, situé à 1 heure de Limoges. À 6h, 150 policiers et gendarmes, dont 60 de la sous-section antiterroriste, débarquent et bouclent ce village de 335 habitants. On ne lésine pas sur les moyens, un hélicoptère survole même le canton. Au même moment, 5 opérations identiques ont lieu à Viam, en Corrèze, à Baccara, en Meurthe-et-Moselle, à Rouen et à Paris, où la compagne du chef présumé du groupe est arrêtée. Avant même la fin des perquisitions, Michel Alliomari, ministre de l'Intérieur, organise à la hâte une conférence de presse pour féliciter ces hommes pour cette enquête éclair. En quelques heures, la police avait pu mettre la main non sur des saboteurs présumés de ligne TGV, mais sur un commando de terroristes, membre d'un réseau international qui, selon les dires de la ministre, était prêt à basculer dans la violence. Dès 13h, la machine médiatique s'enclenche. Tous reprennent en boucle les déclarations de la ministre de l'Intérieur.
Depuis mon arrivée au ministère, j'ai souligné les risques d'une résurgence violente de l'extrême-gauche radicale. J'observe en effet, depuis maintenant 3 ou 4 ans, une radicalisation de la mouvance d'ultra-gauche. Ces individus se manifestent, se caractérisent par un rejet de toute expression politique démocratique et par un discours extrêmement violent. Autant de motifs qui m'ont poussé à demander le renforcement de leur surveillance par les services de renseignement et de police judiciaire.
Le 11 novembre, après plus de 8 heures de perquisition, 9 personnes sont arrêtées et mises en garde à vue pour 96 heures sans aucune assistance juridique, comme l'autorise la nouvelle législation antiterroriste. Parmi elles, Gabrielle. Dans les pages du Monde, elle raconte son interpellation.
À 6h40, braquée dans mon lit. Cagoulée, des hommes de la sous-direction de la lutte antiterroriste cherchent désespérément des armes en hurlant. Menottée sur une chaise, j'attends la fin des perquisitions, palais absurde pendant des heures d'objets ordinaires mis sous scellés. Ils embarquent tout le matériel informatique, vos brosses à dents pour les traces ADN, vos draps pour savoir avec qui vous dormez.
Dans le procès-verbal D-208, on découvre toute l'attention des policiers pour les livres de la bibliothèque située en haut de l'épicerie tenue par les personnes arrêtées. Tout livre ayant un titre jugé suspect est mis sous scellé, comme « Anarchie au Royaume-Uni » de Nick Cohn, « Books for Burning » d'Antonio Negri et surtout « La fin de l'état de droit » de Jean-Claude Baille. Lors de ces perquisitions, les policiers découvrent une enveloppe portant les inscriptions « Parti imaginaire, comité invisible ». Et les perquisitions continuent.
Après plus de 8 heures de perquisition, ils me chargent dans une voiture, direction Paris-Levallois-Perret dans les locaux des renseignements intérieurs. Les interrogatoires s'enchaînent, une fois 8 heures sans pause, va-et-vient de nouveaux officiers qui se relaient. Mauvaise blague, pression, menace. Ta mère est la 10e personne mise en garde à vue. On va la mettre en détention. Tu ne reverras plus ta fille.
Tout comme Gabriel, Bertrand, Elsa, Aria, Mathieu, Manon, Benjamin, Hildune et Julien seront interrogés pendant 96 heures, au cours desquelles, de Libération jusqu'au Figaro, la mouvance de l'ultra-gauche, comme ils disent, le commando, la ferme des terroristes, le profil du chef présumé, ses liens avec des groupuscules internationaux font la une. Jean-Pierre Marin, le procureur de la République de Paris, prend la pause devant les caméras. Il accuse et distille les informations récoltées depuis plusieurs mois autour de ce comité invisible.
Ce noyau dur avait conçu une structure qu'ils appelaient la cellule invisible et qui avait pour objet la lutte armée, qui ont commis un certain nombre d'actions qui se caractérisent toutes par la violence de leur participation à un certain nombre d'événements. Les projets d'attentats consommés et constatés sont des atteintes aux lignes ferroviaires qui correspondent d'ailleurs à un certain nombre d'écrits retrouvés à la ferme de Tarnac qui consistent à considérer que les atteintes aux réseaux de communication sont des moyens efficaces de lutte armée. Il n'est pas exclu que ce groupe ait envisagé des actions plus violentes et notamment contre les personnes. Mais ça sera le travail du juge d'instruction que de conforter ces éléments qui sont pour l'instant pas solidifiés dans la procédure. On est en fait dans une ultra-gauche qui se situe en dehors de tous les schémas connus ou proposés par l'échiquier politique, fût-il un échiquier politique non représenté.
Pourtant, les sabotages constatés sur les lignes TGV en novembre 2008 ne peuvent en aucun cas mettre la vie des passagers en danger. Alors pourquoi le groupe est-il accusé de terrorisme pour l'acte de sabotage ou pour ce qu'ils auraient pu faire? Concernant les sabotages, la seule conséquence est le coût des réparations et des retards sur le réseau ferroviaire. Alors, quelles sont les preuves qui ont amené la justice à qualifier ces actes d'actes terroristes présumés? À Tarnac, après la surprise des arrestations du 11 novembre, vient la surprise des mots. Les jeunes du village sont présentés comme formant un commando, vivant clandestinement dans une ferme et dans l'épicerie du village, située à 2 pas de la mairie. Les membres de groupe, soi-disant tapis dans l'ombre, sont en fait bien connus des habitants. Arrivés en 2005, après l'achat de la ferme de Gourayou par Julien Coupa, les membres de la collectivité se sont en fait bien intégrés à la vie du village. En octobre 2007, Benjamin et deux amis ont même repris l'épicerie-bar. Maintenant, ainsi, l'activité du dernier commerce dans le village.
Bien curieux, 11 novembre, que Tarnac et ses 350 habitants ont commémoré ce matin. Personne ne sait pourquoi des dizaines de gendarmes et de policiers ont envahi la commune.
Je l'ai découvert ce matin au réveil.
Les policiers ont perquisitionné deux appartements contigus à la mairie où vivent une demi-douzaine d'hommes et de femmes en colocation. Ils ont aussi concentré leurs recherches sur cette épicerie-restaurant reprise depuis un an par trois jeunes, un Français, un Suisse et un Belge. Tous appartiennent à la même communauté libertaire qui est arrivée à Tarnac depuis 3-4 ans.
Il me semblait que ces gens-là étaient plus tournés vers les pauvres que vers les gars de Wall Street, ça c'est évident. Plutôt anarchiste que sarkozyste, ça fait pas l'ombre d'un doute.
À leur arrivée, ils ont été perçus comme une secte, en fait. Maintenant, ils se sont très bien intégrés, et ils ont repris une épicerie qui marchait plutôt pas mal, ils faisaient des animations, tout allait bien, quoi.
C'est des gens très honnêtes, très serviables, très gentils, qui s'occupent pas de personne du tout. Hein.
Bon, on parlait politique, mais on parlait politique, on ne parlait pas d'aller mettre le feu partout, hein. C'était pas la bande à Badère. Hein.
J'ai pas constaté en eux des préceptes d'incendiaire, de violence particulière.
Le 15 novembre 2008, les 9 personnes sont mises en examen. Oui, toutes. Bertrand, Elsa, Mathieu, Aria, Benjamin et Manon se retrouvent sous l'accusation d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Yildune et Gabriel, elle, hérite de l'intitulé « Association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et destruction de biens en réunion ». Elles sont écrouées, placées en détention provisoire à la maison d'arrêt des femmes à Fleury-Mérogis.
Je suis amenée aux galeries toutes neuves de la section antiterroriste pour comparaître devant le juge d'instruction. Puis la prison. Fleury-Mérogis, la plus grande d'Europe. Tous les charognards gardent cette prison. Pigeons, corneilles, mouettes et de nombreux rats. Nous y sommes arrivés, Manon, Yildune et moi, en tant que détenus particulièrement surveillés. On était réveillés chaque nuit toutes les 2 heures. Lumière allumée et sommés de faire signe. Les fouilles au corps, le mitard, les petites humiliations, le froid et la nourriture dégueulasse. Le quotidien de la prison est fait pour écraser.
Quant à Julien Coupa, dont le nom va devenir très vite célèbre, il est présenté comme le chef présumé du commando, selon la terminologie des autorités. Mis sous surveillance depuis le mois d'avril, il était déjà une vieille connaissance des services de renseignement, forcément. Et puis, son sac à dos avait été retrouvé entre le Canada et les États-Unis. Dedans, il y avait des notes à propos d'une rencontre anarchiste organisée à New York en janvier 2008. Le jour des sabotages, Julien et Yildune étaient apparemment suivis. Et c'est même l'ensemble du groupe qui était placé sur écoute depuis de longs mois. Dans la presse, Julien Coupa est présenté comme un fils de bonne famille, en fait l'ESSEC, puis de la sociologie politique et de la philosophie. Mais qui aurait dérivé? Pourtant, les enquêteurs n'ont rien à lui reprocher, objectivement rien, si ce n'est qu'il est l'auteur probable d'un livre intitulé « L'insurrection qui vient ». Un ouvrage qu'on trouve dans n'importe quelle librairie. Et puis quoi? On ne peut pas publier dans ce pays? Dans cette démocratie arrimée au principe de la liberté d'expression? L'insurrection qui vient, brûlot philosophique écrit après les émeutes de 2005 et les grandes manifestations de 2006, est alors présenté comme un essai philosophique anarchiste, voire comme un appel à la lutte armée. Le 18 novembre 2008, Julien Coupa est mis en examen avec un intitulé « Long comme le bras ». Association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, destruction de biens en réunion, direction et organisation en vue de préparer des actes de terrorisme et refus de se soumettre à un prélèvement biologique. Il est écroué en détention provisoire à la prison de la santé à Paris.
Ça y est, le grand incendie, y a le feu partout, emergency Babylone. Paris s'écroule, New York City, Iroquois qui déboule maintenant. Allez, London, Delhi, Dallas dans le show, hommage à l'art pompier. T'entends les... Sortent la grande échelle, vas-y. We'll be right back. sur la terre éventrée, la faille est creusée, atomisée. Claudia Schiffer dit qu'elle a même pas peur et tout le monde applaudit à la télé. Ressaisis-toi, ressaisis-toi, faut courir maintenant. Elle est dans un bunker, il y a plus de programme, il y a même plus d'heure à vous l'antenne. C'est l'incendie, le grand incendie, c'est l'incendie, le grand incendie, c'est l'incendie, le grand incendie.
Après la mise en examen des personnes arrêtées à Tarnac, leur défense s'organise. Ce sont les parents des inculpés qui contre-attaquent en premier. Ils publient une longue lettre où ils dénoncent l'attitude des autorités et de la ministre, Michèle Alliot-Marie, sur le thème « Et la présomption d'innocence alors ?» À Tarnac, c'est un comité de soutien qui s'organise pour défendre les jeunes du village. Avant le débarquement des policiers et des caméras, Tarnac était un village de Corrèze où la principale personnalité s'appelait Jean Plazanet. C'était l'ancien maire communiste, un rouge, un vrai, qui avait fait l'école de Moscou, selon les mots du châtelain du coin, qui garde d'ailleurs un mauvais souvenir de son mariage à la mairie. Et pour cause, le drapeau tricolore traditionnel avait été remplacé par un drapeau rouge. Pour ces 335 habitants, entre anecdotes du passé comme celle-là et vie quotidienne, tout est calme et paisible à Tarnac. C'est fait pour ça un village, loin du tumulte, la ruralité, un choix de vie ou une tradition familiale. Mais en quelques heures, en ce 11 novembre 2008, Tarnac devient le bastion d'un groupe de l'ultra-gauche, un lieu de villégiature de l'anarchie française et internationale. Face à cet emballement, le comité de soutien est constitué. Il s'appelle très précisément « Comité de soutien aux inculpés de Tarnac ».
Michèle, comment ça s'est passé? C'est-à-dire que si on refait un petit peu la chronologie rapidement, le 11, donc il y a la grande arrestation.
En fait, le 11, il y a la grande arrestation.
Il y a eu 9 inculpés.
Ouais.
Depuis, on a 2 qui sont encore en détention provisoire.
Ouais.
Donc 6 ont été arrêtés à Tarnac, là où on se trouve aujourd'hui.
Le 12 ou le 13, je ne me souviens plus trop, on fait, les jeunes provoquent une réunion avec les habitants. On monte un comité de soutien. Le comité de soutien, il prend pas position sur la culpabilité des gens. Est-ce qu'ils ont fait des actes de malveillance ou pas? Le comité de soutien, il prend juste position sur le fait de dire que ce sont des actes de malveillance qui ont été effectués. On ne sait pas si c'est eux. Donc déjà, il y a la présomption d'innocence. Hein, c'est dans la loi française. Et ensuite, ça n'a rien à voir avec du terrorisme, quoi. Il n'y a jamais eu de risque de déraillement, il n'y a jamais eu risque d'atteindre à la vie des gens ou simplement à leur intégrité. Il y a des gens de la SNCF qui se sont exprimés clairement là-dessus, hein, notamment les gens qui réparent les caténaires et qui travaillent sur les trains. Et eux, ils ont déclaré à la presse, c'était un système plutôt ingénieux et qui causait des dégâts matériels, mais en aucun cas qui mettait en risque la vie des gens. Quoi. Voilà.
Le 28 novembre, des intellectuels se mobilisent contre ce qu'ils appellent l'ordre nouveau et se posent cette question fondamentale. Les lois d'exception adoptées sous prétexte de combattre le terrorisme et pour parfaire la sécurité sont-elles compatibles avec la démocratie, comme le titre le journal Le Monde dans son édition du 28 novembre 2008. Le 2 décembre, Gabriel, Benjamin et Manon sont remis en liberté sous contrôle judiciaire. Le 16 janvier, Yildune, la compagne de Julien Coupa, elle aussi est libérée sous contrôle judiciaire, bien sûr. Enfin, le 28 mai 2009, 6 mois après son arrestation, Julien sort de la prison de la Santé, caché dans le coffre de la voiture de sa mère. Le gouvernement, lui, ne lâche rien. Le Premier ministre en personne, François Fillon, revient sur cette libération.
Ce que je note simplement, c'est que, l'affaire est grave. Je lisais ce matin dans un éditorial d'un grand journal qu'il s'agissait juste de retard de TGV. Il ne faut pas exagérer. On a saboté plusieurs TGV prenant des risques considérables pour la sécurité des personnes. La procédure a été respectée. La règle dans notre pays, c'est pas la détention provisoire, c'est la liberté. On met en détention provisoire les gens quand on veut éviter qu'ils sauvent, quand on veut éviter qu'ils fassent pression sur les témoins ou quand on veut éviter qu'ils détruisent des preuves. C'est la raison pour laquelle M. Koupa a été placé en détention provisoire. La justice estime désormais que l'enquête est suffisamment avancée pour qu'il puisse être libéré. Il y aura un procès, on saura à ce moment-là la vérité.
À Tarnac, c'est un autre son de cloche. À Tarnac, on célèbre la libération de Julien.
On est content que ça soit sorti, quoi. Parce que bon, des erreurs comme ça, enfin, nous on pense que c'est une grosse erreur, quoi, que ça ne devrait pas arriver.
Ils n'ont rien cru. C'est pour ça qu'ils vont le libérer. Quand même, il a passé 6 mois pour rien du tout. Ils n'ont rien trouvé contre lui. Les plus fautifs, c'est le gouvernement. Ils ont fait des conneries, c'est tout. Moi, j'ai rien contre eux. Tous ceux qui ont été emprisonnés, ils en ont arrêté 9. On n'arrête pas les gens sans savoir pourquoi.
Ça, les terroristes, j'ai plus de 70 ans, quand on en a tenu quelques-uns, on ne les a jamais relâchés. Hein, c'est rare, un vrai terroriste. Alors qu'on relâche des terroristes dans la nature, c'est un faux terroriste.
Ah, elles ont bonne mine, les preuves irréfutables présentées par les autorités. Elles ne sont plus que des indices et des présomptions. La trace d'ADN sur les lieux du sabotage de Duisy, évoquée dans un premier temps par la police, envolée. En novembre 2009, les avocats de la défense remettent d'ailleurs une note au juge d'instruction pointant les anomalies et les incohérences de l'enquête. Au lendemain des interpellations, un témoin se faisant appeler Anonyme 42 avait révélé aux enquêteurs que Julien détruirait le monde et qu'il envisageait de tuer s'il le fallait, car la vie humaine a une valeur inférieure au combat politique. Conclusion, dans l'esprit de la justice, Julien était prêt à passer à l'acte. Forcément, seulement voilà. Un an plus tard, ce témoignage si parfait s'effrite, puis s'écroule même, lors du journal de TF1. Un journaliste de la chaîne piège le témoin lors d'un reportage en caméra cachée et Anonyme 42 déclare avoir subi des pressions. Lors de cet entretien, avec la voix déformée, il revient sur ses déclarations.
Et on a une info et on ne sait pas comment on peut la mettre dans un dossier pour que le juge dise ok, ça marche. On ne demande pas de balancer quoi que ce soit, on a tout ce qu'il faut, de toute façon c'est mort, ils sont fugis, ils sont cuits.
C'est eux, coupables, pas coupables, nous on s'en fout, c'est pas un problème.
On m'a pas posé tant de questions que ça, enfin, c'était pas important. Ce que moi j'avais à dire, c'était pas important. Ce qui est important, c'était que, au bout d'un moment, je signe ton ordonné de faire.
Ouais, ils m'ont dit, voilà, c'est comme ça que ça va se passer maintenant.
T'as mis une pression,
clairement. Quand je suis resté 9 heures, à être dans une espèce de simultanéité entre... Il y en a qui te payent un café très sympa, et à des moments, des trucs, genre...
Il a pas trouvé ton ADN quelque part, quand même, hein.
Un mois et demi après, là, quand les journalistes commençaient à faux chercher, machin, les mecs, ils m'ont dit, on est emmerdé. Parce que bon, ça pourrait remonter jusqu'à toi. Et du coup, on m'a reconvoqué. La ZAT m'a reconvoqué en décembre. J'ai redéposé en décembre, devant le dossier de la ZAT.
Donc on t'a proposé de retémoigner pour dire l'inverse de ce qu'on t'avait fait dire en tant que témoin sous
suspicion. Absolument, parce qu'on m'a fait dire, ils sont pas dangereux, machin.
En décembre 2009, près d'un an après l'affaire, les accusés ne peuvent toujours pas reprendre une vie normale à Tarnac. Alors ils décident de ne plus respecter les contrôles judiciaires et l'annoncent en grande pompe dans les pages du journal Le Monde.
Nous désertons.
Nous désertons.
Nous désertons.
Nous désertons.
Nous ne pointerons plus et nous comptons bien nous retrouver
comme nous l'avons déjà fait pour écrire ce texte.
Nous ne cherchons pas à nous cacher.
Simplement, nous désertons le juge Fragnoli et les 100 petites rumeurs,
les 1000 aigreurs misérables qui répandent sur notre compte devant tel ou tel journaliste.
Nous désertons la sorte de guerre privée dans laquelle la sous-direction antiterroriste voudrait nous engager à force de nous coller aux basques, de sonoriser nos appartements, d'épier nos conversations, de fouiller nos poubelles, de retranscrire tout ce que nous avons pu dire à notre famille durant nos parloirs en prison.
En octobre 2009, la demande d'annulation de l'enquête est rejetée. Le travail de la défense, comme celui de l'instruction, doivent donc se poursuivre. Le 21 février 2011, Julien et Yildune portent plainte contre X pour faux et usage de faux en écriture publique. L'objet de la controverse concerne le PV de la filature de la nuit du 7 novembre, le PV 104, qui est devenu le boulet de l'affaire de Tarnac. Oui, car ce document est bourré d'approximations, de routes qui n'existent pas, de trajets impossibles à réaliser dans les temps indiqués. En 2014, des journalistes du Monde ont reconstitué le trajet des policiers pendant la nuit du 7 au 8 novembre en suivant les indications du fameux PV 104. C'est leur reportage que vous allez entendre. La filature si parfaite est bien loin de la réalité.
Cela aurait pu être le rêve de tout policier, un flagrant délit bien propre.
Les policiers suivent Julien Coupa et Yildu Nevi précisément dans la région. Pourtant, ils n'ont rien vu. Il faut s'imaginer le mois de novembre. Il fait déjà nuit depuis une heure. Après 7 heures de filature, les choses sérieuses vont commencer. Ici, sur la Nationale 3, la Mercedes suivie par une vingtaine de policiers de l'ASDAT et de la DCRI va tourner. Mais c'est toute la filature qui va dérailler. À 19h50, les policiers retrouvent la Mercedes par hasard, sur une route difficile à identifier. Ils vont continuer à la suivre, mais sur des routes qui n'existent carrément pas.
À 20h, le véhicule est observé sur la RD 845 en direction de Marigny-en-Orxois. Dans le centre de cette ville, le véhicule tourne à gauche et gagne le village de Veuilly-la-Poterie.
Le village de Veuilly, ce n'est en fait que quelques habitations traversées par une rue en sens unique. La route départementale le longe. Il n'y a aucune bifurcation. Et pourtant, le PV indique...
Le véhicule tourne à gauche et emprunte la D221 en direction de Brumetz.
Il n'y a pas de D221 à Veuilly, ni dans le village, ni même sur le territoire de la commune.
Le soir des sabotages, le couple est suivi, c'est la police qui l'affirme. Et rappelons que l'objet de l'arrestation concerne le sabotage de caténaire de ligne TGV. La pose du crochet est donc le seul fait concret que les juges et les policiers sont parvenus à récolter contre les personnes mises en examen le 18 novembre 2008. Pourtant, aucune interpellation en flagrant délit n'a eu lieu le soir des événements. Les policiers n'ont-ils rien vu ? Aucune trace non plus sur la pose du crochet, aucune empreinte, aucune information non plus sur le matériel, indispensable pourtant pour réaliser cette manœuvre, comme une tige d'au moins 7 mètres pour fixer le crochet. Non, rien de ce type n'a été retrouvé. En novembre 2012, après 4 ans d'enquête, la ministre Michèle Alliot-Marty, qui avait changé plusieurs fois de fonction, passant de l'intérieur à la justice puis aux affaires étrangères, a dû démissionner à la suite de ses relations inadéquate avec le clan Ben Ali lors des révolutions arabes. Et le juge Fragnoli, principal magistrat instructeur de l'affaire, a été dessaisi du dossier. Julien, lui, sort d'un quasi-silence de 4 ans. Dans son esprit, l'affaire est close.
Julien Coupa ne veut plus être la figure emblématique de l'affaire Tarnac. Avec Mathieu Burnel, suspecté lui d'association de malfaiteurs, ils nous ont proposé une rencontre ce matin à Paris. Rendez-vous au métro Ménilmontant et nous nous sommes rendus chez l'une de leurs amies. Pendant près de 4 heures, les deux jeunes gens sont revenus sur le fond de ce dossier qui, disent-ils, est une pure construction policière et judiciaire à des fins politiques. Entre des écoutes qui ne sont pas encadrées légalement, un témoin sous X qui depuis s'est décrédibilisé ou encore des comptes rendu de filatures truffées d'incohérences grossières. Bref, les sabotages des lignes SNCF n'ont été qu'un prétexte pour arrêter Julien Coupa et ses amis, pour en faire le cerveau d'un groupuscule de l'ultra-gauche. La version policière a d'ailleurs changé 4 fois en 4 ans, remarque-t-il. Et puis, pour la première fois, Julien Coupa évoque sa détention pendant plus de 6 mois. La prison, ce n'est pas seulement vous mettre en cellule, dit-il, c'est briser tous les liens que vous avez. Aujourd'hui, le jeune homme veut quitter cette existence judiciarisée, quelle que soit l'issue de cette affaire.
Au même moment, les avocats de la défense lancent une dernière attaque contre l'instruction avec une conférence de presse co-animée avec des personnalités politiques comme Noël Mamer. L'affaire des membres de l'ultra-gauche de Tarnac est devenue une affaire d'État.
Cette affaire de Tarnac, c'est d'abord un fiasco judiciaire, c'est un fiasco policier et ça pose un problème politique. Sur le contrôle des outils de renseignement qui sont à la disposition des Français, du ministère de l'Intérieur. Il faudra qu'un des groupes politiques, ou peut-être nous-mêmes si c'est possible, nous demandions une commission d'enquête parlementaire sur ce qui s'est passé dans ce qu'on appelle l'affaire Tarnac. Parce que j'ai quand même le souvenir d'un certain nombre de réponses concernant, paraît-il, ce concept qu'avait inventé Mme Alliot-Marty, et qu'a d'ailleurs repris M. Valls, ce concept de l'ultra-gauche. Ce qui est clair, c'est qu'il y a eu des montages policiers, qu'il y a eu des complicités de la justice, et en particulier du juge d'instruction, qu'il y a sans doute des ordres qui ont été donnés d'en haut. Est-ce qu'il faut parler de scandale d'État ? Moi, je considère que oui.
Comme nous avons pu le voir depuis le début de cette affaire, le travail de journaliste a permis de contredire peu à peu la version officielle des arrestations du 11 novembre 2008. L'une des révélations les plus étonnantes se trouve sous les lettres XUK, ou UK, comme vous voulez, inscrites dans les sources de la pré-enquête. Derrière ces lettres mystérieuses se cache en réalité un espion anglais, Mark Kay. Son identité a été diffusée en Grande-Bretagne après des révélations autour des méthodes de certains espions anglais, dont Mark Kay lui-même. Il était chargé de la surveillance et de l'infiltration des groupuscules anarchistes en Europe. Lors de ses missions, il participe à des actions et des délits alors que son rôle est en fait de les déjouer. Et c'est lui qui transmet des informations aux autorités françaises sur la présence de certains membres du groupe de Tarnac à des manifestations contre l'OTAN, contre le G8, contre le G20. C'est encore lui qui permet aux autorités françaises de reconstituer le parcours de Julien et Hildune aux États-Unis au début de l'année 2008. En France, ces méthodes d'infiltration sont illégales. Alors, la DCRI a-t-elle demandé un coup de main aux Anglais? Depuis que son identité a été dévoilée en Grande-Bretagne, Mark Kay est devenu consultant aux États-Unis, mais dans ses notes, rien, absolument rien de compromettant pour les membres de Tarnac n'est répertorié. Le 14 avril 2014, Jeanne Huillet, la juge d'instruction qui a repris l'affaire en 2012, a signifié la fin de l'information judiciaire au sujet du sabotage de la ligne Est du TGV à Dusy. Il faut dire que l'enquête n'a pas permis de trouver de suspects pour les trois autres sabotages qui ont eu lieu, pourtant, la même nuit. Dans les prochaines semaines, la juge doit prendre la décision de renvoi ou non devant le tribunal correctionnel. En attendant, pour les 9 personnes mises en examen, la vie a repris son cours. Certaines sont revenues dans le village. Benjamin a repris l'épicerie. Ces personnes attendent désormais le retour à la liberté pleine et totale. Quant à Michèle Alliot-Marie, elle poursuit sa vie politique après une carrière de ministre où elle a obtenu presque tous les Marocains importants, les ministères régaliens. En mai 2014, elle est élue députée européenne. Tarnac. Tarnac ou l'illustration d'un principe contraire à l'esprit de nos lois, le présumé coupable. Et aussi la traduction d'un étrange rapport entre l'État et la menace terroriste, jusqu'à l'aveuglement, l'erreur et à la clé, le traumatisme pour des femmes et des hommes à qui, bien trop vite, on avait enfilé la panoplie du terroriste.
La cigarette sans cravate qu'on fume à l'aube démocrate et le remords des coups de jatte avec la peur qui tend la patte. Le ministère de ce prêtre et la pitié à la fenêtre et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître. Ces bois que l'on dit de justice et qui poussent dans les supplices et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service. Cette procédure qui guette ceux que la société rejette sous prétexte qu'ils n'ont peut-être parole d'évangile qui fait plier les imbéciles et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style. Ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu ni maître, ni Dieu ni maître.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'affaire Tarnac. Notre invitée, Marie Doré, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocate. C'est vous qui avez défendu l'une des principales accusées dans ce dossier, Yildune Levy, lors du procès qui s'est tenu au mois de mars dernier. Vous êtes avocate pénaliste et vous revendiquez plaider contre les dérives de l'état d'urgence et du populisme pénal, l'expression que vous avez donnée dans une interview à Libération. Alors, 10 ans après, évidemment, ce n'est pas sans dommage que ces gens-là sortent d'une telle histoire. Et d'ailleurs, peut-on en sortir sans dommage? Comme l'a dit Yildune Levy, la présidente du tribunal, lors des 10 jours d'audience en mars dernier, cette affaire a marqué mon prénom si rare du sceau de l'accusation. Alors aujourd'hui, je me fais parfois appeler par un autre prénom pour me payer un peu de ce luxe de l'anonymat que j'ai perdu. Alors ce sont des mots simples et forts. Vous avez dû aussi, vous, en tant qu'avocat, traverser des moments de doute, reconstruire un récit, accompagner votre cliente à travers ses explications et les accusations qui ont pesé sur elle. Comment et pourquoi choisit-on de défendre des gens accusés de terrorisme ?
Alors, sur ce dossier-là, c'était pas très compliqué parce que j'ai jamais eu de doute. J'ai jamais eu de doute sur le fiasco judiciaire qui était à ma portée. J'entendais le mot aveuglement tout à l'heure. C'est un aveuglement et c'est un autisme judiciaire. Qu'il y ait des dérives policières, on le sait. Mais qu'elles soient validées à ce point par 10 années de procédure judiciaire. Et attention, 10 années d'instruction. Avec un magistrat qui est censé être indépendant et qui doit instruire à charge et à décharge. Là, il y a une vraie difficulté. Et quand j'ai découvert ce dossier, j'ai surtout constaté cela. Cette espèce de propension de la justice à avoir validé le pire du travail policier. Et c'est malheureusement aussi ce dont la justice antiterroriste est capable.
Et vous parlez aussi de populisme pénal. Qu'est-ce que c'est le populisme pénal? Même si à travers cette formule on voit de quoi il s'agit. Mais je vous le laisse expliquer.
Dans ce dossier-là, tout particulièrement, c'est la facilité avec laquelle le pouvoir politique a pu instrumentaliser la justice. À l'époque, n'oublions pas, on est sur une certaine droite radicalisée, alors là elle l'est, elle l'est radicalisée, qui a besoin finalement de désigner un ennemi intérieur, et l'ennemi intérieur ce sera l'ultra-gauche. Donc on est sur une opération politique, attention, n'oublions pas les mots de Michel Alliot-Marie tout de même.
Oui,
n'oublions pas les mots de Michel Alliot-Marie. Et c'est intéressant parce que cette conférence de presse qui est rappelée dans votre émission laisse à penser qu'elle sait tout de ce dossier, que ces gens sont violents, que ces gens sont dangereux. Quand 10 ans plus tard, on l'a fait citer devant le tribunal correctionnel, elle refuse de venir. Et vous savez pourquoi ? Quelle est sa réponse ? Je ne viens pas parce que je n'ai pas eu à connaître ce dossier. Je n'ai rien à dire sur ce dossier, je ne le connais pas. Celle-là même, qu'il y a 10 ans, présentait à la France entière des gens dangereux et capables du pire, ne sait finalement absolument pas. 10 ans plus tard, de quoi il en retourne ? C'est tout de même assez gênant.
On avait l'impression que c'était le retour d'Action Directe un peu. Hein,
oui,
c'est quelque chose de caricatural.
Oui, puis on a tous quand même des leçons à tirer. La presse, en tout premier lieu. Hein. Je n'oublie pas Libération. Hein. Ouvrez les guillemets, c'est le retour de l'ennemi invisible. Je ferme les guillemets. Ça, c'était Libération le lendemain. Hein, le titre de Libération, en tout cas. Et puis beaucoup de vos confrères. Elle m'intéresse beaucoup, votre émission, parce qu'on est en 2014.
Ouais.
Et je constate quand même que c'est en 2015 seulement que la juge d'instruction, donc un an plus tard, abandonne la qualification de terrorisme et pendant 2 ans, le parquet continue. Il interjette appel en disant « Non, ce sont des terroristes, il faut aller jusqu'au bout et nous irons jusqu'à la chambre criminelle de la Cour de cassation. » Donc c'est vrai que votre émission là-dessus est assez louable, il faut bien le dire.
Il était volontaire effectivement de laisser le récit tel qu'il était en 2014 pour peut-être mieux montrer encore ce que vous dites. Alors, quel est tout de même le travail spécifique de l'avocate dans une affaire aussi difficile qui touche au secret de l'enquête face à l'antiterrorisme qui a ses propres codes? Alors là, on est dans cette dérive-là, certes, mais admettons qu'il n'y ait pas de dérive, hein, que la justice fonctionne dans un climat quand même de menace terroriste. Bien, il y a des codes spécifiques quand même à cette nature d'affaire.
C'est très compliqué pour la défense d'exister.
J'imagine.
D'exister en matière de justice antiterroriste et dans le cadre d'une instruction antiterroriste. On a affaire à des interrogatoires fleuves, on a affaire évidemment à une présomption de culpabilité plutôt qu'une présomption d'innocence. Il est très compliqué pour nous d'essayer de faire entendre à un magistrat instructeur les éléments à décharge et l'exploitation des éléments à décharge qui doit être faite. Donc c'est toujours très compliqué. Les droits de la défense face à une instruction terroriste sont amoindris par rapport aux droits commun. Dans ce dossier-là, n'oublions pas, et souvent j'y pense, il n'y avait pas de groupe de Tarnac. Au moment des interpellations, il n'y en a pas. Yildune Levy, par exemple, elle ne connaissait personne. Mais par contre, il y a eu un groupe qui a su se défendre. Le groupe, il s'est formé dans la défense. Et là, on n'a pas affaire à un mis en examen pour terroriste complètement isolé à Fleury-Mérogis avec une famille qui met 400 km pour aller le voir. On a affaire à des gens intelligents qui savent pertinemment qu'ils sont innocents des faits qui leur sont reprochés et qui ont une vraie conscience politique. On est 10 ans 2008, hein, on n'est pas 10 ans, on est 6-7 ans avant les premiers attentats qui nous touchent aujourd'hui. Et véritablement, il y a eu une défense extraordinaire de leur part. Et puis, une forme de culot, une forme de courage, une forme de provocation. Souvent, on leur a reproché cela, d'être en dehors des clous. Mais ils répondaient avec les armes qui étaient les leurs. Quand ils ont été désignés comme ils l'ont été, quelque part, on a bafoué les plus grands principes. On a bafoué
présumé coupable.
Bien sûr, on a bafoué la présomption d'innocence, on a instrumentalisé leur nom, leur destin. Ils ont répondu avec parfois la même violence, ou en tout cas la même provocation, et c'était très bien comme cela.
Alors, est-ce qu'on peut essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là, dans ce mouvement collectif, que ce soit de la part de la justice, des enquêteurs, des ministres? Qu'est-ce qui se passe? On est bien avant l'affaire Mohamed Merah, on est bien avant les attentats terroristes djihadistes. On est sorti d'une autre période d'attentats, mais c'était 95. Action directe, c'était encore plus loin. On est dans quelle période là, par rapport au danger réel ou supposé?
On est dans les années post-CPE. Il y a une révolte sur le fichier Edwige, il y a une révolte sur, par exemple, le sommet européen sur l'immigration à Vichy, tout cela, qui commence quand même à se mettre en place. Et puis il y a une droite qui a pour dessein de démontrer que l'ultra-gauche, c'est aussi dangereux que l'extrême droite. En réalité, il y a de cela, politiquement. Hein, on a envie de désigner cet ennemi intérieur-là, qui serait l'ultra-gauche. Et là, quelques indices, la guerre des services, les services secrets se transforment, hein, la DCRI commence à naître, avec Bernard Squarcini. Il fallait impérativement montrer qu'ils étaient efficaces, et puis que l'ultra-gauche pouvait être soit violente, soit dangereuse. Et donc ils vont instrumentaliser, construire quelque chose qui va malheureusement contaminer le judiciaire. Parfois, quand je suis arrivée dans ce dossier, j'ai lu l'instruction, je me suis dit, mais ce dossier rend fou. Et je me suis même dit, par exemple, que le magistrat instructeur en charge de cette information judiciaire semblait répondre plus à un orgueil mal placé, à des impératifs liés à un orgueil mal placé, qu'à la manifestation de la vérité, qu'à la recherche de la vérité. Ouais. Je crois qu'il y a une surenchère, mais il y a une surenchère aussi parce qu'ils ne se sont pas laissés faire, parce qu'ils ne se sont pas laissés écraser, et ils ont été quelque part plus forts que la machine judiciaire.
Qui était forte aussi, au bout du compte, parce que elle met 10 ans à prendre ses décisions. Alors 10 ans, c'est long, ça fait des dégâts humains, bien sûr, ça je ne l'oublie pas. Au bout du compte, cette justice, représentée par la présidente Corinne Gutzmann, hein, je crois, la 14e chambre du tribunal correctionnel de Paris, prononce la relaxe, et dans un jugement motivé, elle dit « L'audience a permis de comprendre que le groupe Tarnac était une fiction ». Alors c'est aussi la justice qui dit, honnêtement, voilà, on s'est tous trompés. Et aujourd'hui, on rend justice, hein, au nom de l'erreur qu'on a faite, voilà. Mais on rend la justice. Il y a ça quand même. Ça montre aussi, de toute façon, on ne va pas voir toutes les choses en noir, peut-être, que nous sommes dans une démocratie, malgré tout, et encore dans une démocratie.
Non mais ce jugement est remarquable. D'abord parce qu'il rappelle les grands principes, et puis que cette présidente, et nous la connaissons toutes, fait œuvre de justice. Elle ne rend pas des décisions, elle fait œuvre de justice. Par contre, je corrige un petit peu ce que vous venez de dire, parce que c'est très drôle. Le groupe Tarnac est une fiction. Ce n'est pas elle qui prononce ces mots en premier. C'est le procureur de la République. Si, elle le dit, mais elle reprend. D'accord. Oui, mais c'est intéressant. Ouais. Parce que le procureur de la République,
j'étais
le parquet...
J'étais pas procès, je suis désolé.
Non, bien sûr, mais le parquet a asséné le contraire pendant des années. Et jusqu'au bout. Et devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Et entre ce qu'il a asséné devant la chambre criminelle de la Cour de cassation et l'audience, il s'est rien passé. Donc, il y avait une mauvaise foi assumée pendant des années. Et puis, tout s'écroule à l'audience. Mais on sait pourquoi. L'oralité des débats, c'est ça. Ça supporte pas trop la construction, l'oralité des débats. À un moment donné, les éléments sont les mêmes, mais ils s'écroulent. Parce que c'est toujours facile d'écrire un réquisitoire, mais de le soutenir à l'oral, c'est beaucoup plus compliqué.
À quel dites-vous, hein, l'oralité? Ça passe aussi par cette sphère qui s'appelle la radio. Vous avez parlé de Michel Foucault tout à l'heure?
Je ne l'ai pas évoqué, non.
Tiens donc. J'ai peut-être l'entendu. Mais on va l'écouter. Foucault, évidemment, qui dans Surveiller et punir, cette somme sur la réflexion de ce que doit être ou pas être la répression dans un pays comme la France, un pays démocratique. On va l'écouter sur les rapports entre la police et la justice. C'était en 1977.
Quelle est pour vous la fonction d'un juge dans notre société? À quoi servent-ils?
à quoi ils servent. Si j'étais méchant, bon, je ne le suis pas, alors je le dirais tout de même, ils servent au fond à permettre à la police de fonctionner. La justice, elle n'est pas faite pour autre chose que d'enregistrer au niveau officiel, au niveau légal, au niveau rituel aussi, ces contrôles qui sont essentiellement des contrôles de normalisation et qui sont assurés par la police. La justice est au service de la police.
Qu'en pensez-vous ?
C'est ce contre quoi il faut se battre, eh oui. Bien sûr. Et quelque part, on évoque ici, en tout cas, c'est l'image du parquet, mais pas celui du juge d'instruction. La carte bancaire de Lunévi, elle aurait dû innocenter tout le monde très vite. L'instruction aurait dû s'arrêter là. C'était un élément à décharge. Elle a retiré de l'argent à un endroit loin des faits, alors même qu'on assurait qu'elle se trouvait à l'endroit où tout cela s'était passé. Pas un acte d'instruction...
Preuve matérielle, irréfutable.
Pas un acte d'instruction n'a été diligenté pour vérifier ce point-là. Elle a été interrogée des années plus tard sur ce retrait de carte bancaire. On a refusé, officiellement, et ça c'est dommage, d'instruire à décharge. Et c'est peut-être finalement l'échec le plus grand dans ce dossier. La leçon la plus grande qui doit être prise dans ce dossier. C'est pas parce qu'on est dans le cadre d'un dossier antiterroriste qu'un magistrat instructeur peut s'autoriser à n'instruire qu'à charge.
Alors, cette affaire-là pose une question d'une immense gravité avec un immense enjeu. Si elle nous dit que, voilà, finalement, le Patriot Act à la française, il existe. Est-ce qu'elle nous dit ça, cette affaire ?
Je sais pas très bien. D'abord, il faut pas oublier le contexte. Il s'est passé beaucoup de choses entre 2008 et aujourd'hui.
Bien sûr.
Et quelque part, lorsqu'on a évoqué tout à l'heure le procès, ces 3 semaines de procès, on aurait très bien pu dire c'était le procès de l'antiterrorisme, même si finalement la qualification était tombée. Il y a des dérives. Il y a des dérives dans la justice antiterroriste, mais qu'on estime finalement légitime aujourd'hui parce que les attentats sont arrivés en France. C'est pas du tout comme ça qu'il faut raisonner. Il faut
parce que ça serait donner une victoire au terrorisme que de dire vous avez interrogé sévèrement notre démocratie, c'est-à-dire sur les fondements même, la liberté.
Mais ça prouverait tout simplement qu'ils sont plus forts que nous. Si nous cédons dans nos grands principes, en expliquant que la menace est d'autant plus grande qu'il faut céder dans nos grands principes, ils ont gagné. Intellectuellement, ils ont gagné.
Bien sûr. Le cœur de l'affaire Tarnac est en réalité la définition même donc du terrorisme en novembre 2008, tel qu'on l'imagine, la menace terroriste. Je veux dire, on associe ce groupe à une menace terroriste que vous venez d'expliquer. Alors, des personnalités comme Alain Bauer, criminologue médiatique, ont joué un rôle important dans ce climat anxiogène d'antiterrorisme. Comment devient-on un terroriste pour la justice ? Comment la justice définit cette notion aujourd'hui ?
Alors, on parle de justice là, on parle pas de populisme pénal, parce que parfois aussi Monsieur Bauer ou d'autres ont joué cette carte-là. C'est-à-dire que le terrorisme, c'est aussi une définition qui arrange bien une pensée politique, une mode politique, et puis qui peut finalement aussi devenir une arme soi-disant démocratique. Hein. Ouais. Donc judiciairement, il y a un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation. En tout état de cause, même si la définition reste floue, ce qui est évident, c'est qu'elle ne peut pas être liée à des infractions qui n'ont pour seule conséquence que des dégâts matériels. Et c'est intéressant dans cette affaire, parce qu'on l'a toujours rappelé. Quoi qu'il en soit, ce qui a été reproché aux mises en examen ne pouvait avoir que pour conséquence des dégâts matériels et rien d'autre. Alors, ce qu'on fait pour essayer quand même de faire tenir la qualification terroriste, on se sert de l'association de malfaiteurs. L'association de malfaiteurs, certains appellent ça l'infraction fourre-tout, nous on appelle ça l'infraction poubelle. C'est ce qu'il y a de plus dangereux parce que c'est ce qu'il y a de plus extensif possible. On fait ce qu'on veut finalement avec cette infraction et puis surtout, ça permet d'élargir le champ des possibles et notamment des actes pouvant être qualifiés de terroristes.
Alors nous avons, ça va très loin dans l'affaire de Tarnac, puisqu'il semble que les lectures, jusqu'aux lectures de ces gens-là, on va pouvoir trouver des preuves selon lesquelles, attention, ils pourraient être dangereux parce qu'ils lisent des choses qui sont dangereuses. Où va-t-on ?
Oui, on a mis une bibliothèque sous scellé. Moi, je suis allée à Tarnac, je la connais, cette bibliothèque, elle est vraiment, elle est très très jolie. Je sais pas si elle existe encore, mais quand j'y suis allée, elle est assez impressionnante. Mais on a mis une bibliothèque sous scellé. Ce que j'aime beaucoup, c'est ce livre qu'on a placé sous scellé, qui s'appelle La fin de l'état de droit. C'est vrai, parce que c'était très révélateur et très symbolique, finalement, dans ce dossier, de mettre sous scellé la fin de l'état de droit, parce qu'effectivement, ça résonne quand même comme une petite musique, voilà, qui allait si bien pendant cette décennie procédurale.
Alors donc la question des questions, la question, la grande qui se pose à travers tout ça, c'est comment on fait pour à la fois être responsable face à une menace terroriste hein, qui existe, pas une vue de l'esprit hélas, et pour sauvegarder la liberté du citoyen. Voilà, l'équilibre infernal à trouver. Est-ce qu'il est infernal, cet équilibre, quand on est non plus en état d'urgence, mais en régime de loi antiterroriste hein. C'est ça, c'est le grand dilemme. Comment fait-on pour respecter l'état de droit et en même temps être vigilant face à une menace terroriste qui malheureusement n'est pas fantasmatique?
La justice antiterroriste ne peut pas être qu'une justice d'exception. C'est-à-dire que plus on avance, plus les textes se durcissent et plus finalement on s'échappe ou en tout cas on trahit les grands principes de notre droit. Il faut que les réformes s'arrêtent. Je pense pas que les gouvernements gagnent à arriver au pouvoir et nécessairement à construire une nouvelle législation antiterroriste pour dire, voyez, nous au moins on s'en occupe bien. Je crois que d'abord il faut cesser de modifier la loi pour la rendre de plus en plus dure. Actuellement, ce qu'il faut aussi en matière de justice antiterroriste, c'est individualiser. Je défends beaucoup de mises en examen qui sont sous le coup d'une infraction terroriste. Force est de constater que la personnalité n'existe pas, qu'on a énormément de mal à faire de la place à ce qu'est le justiciable. Pourquoi il en est arrivé là? Ce qu'il est devenu, ce qu'il a à nous dire, nous, quel est le miroir aussi qu'il renvoie face à nos échecs liés aussi à certaines cités, nos échecs sociétaux, tout cela. On est dans une justice presque d'abattage. On est face à une machine qui veut faire peur parce qu'elle a peur. Et c'est pour ça qu'on est en train de perdre. Je crois qu'au contraire, il faut être certain que nos principes gagneront à moyen et long terme sur l'obscurantisme et ne pas épouser cette terrible philosophie, mais ce n'en est pas une, qu'ils essayent d'asséner.
Et la dimension du fichage. Alors on parlait du fichier Edwige hein, tout à l'heure. Mm-hmm. Bon, la dimension du fichage, elle existe quand on est en contexte de menace terroriste encore. Est-ce que elle est porteuse de dangers antidémocratiques cette...
Oui, puis ça on l'a vu s'agissant de l'état d'urgence. Moi, je suis désolée, mais je ne peux pas supporter que des gens puissent être fichés S alors même qu'on n'a pas pu avoir assez d'éléments pour les placer en garde à vue. Enfin, à un moment donné, c'est tout le problème des renseignements et de la puissance du renseignement que de contaminer aussi le judiciaire. C'est-à-dire que certaines personnes sont assignées à résidence, certaines personnes font l'objet d'un fichage, alors même que la justice ne peut même pas les placer en garde à vue parce qu'il n'y a pas assez d'éléments contre eux. Ça pose quand même une vraie difficulté.
Je voudrais vous dire sur une phrase que vous avez prononcée il n'y a pas longtemps dans cette scène-là, il y a quelques minutes, vous dites... Une justice qui entend faire peur parce qu'elle a peur. Mm-hmm. Elle a peur de quoi ?
Elle a peur probablement de ne pas être à la hauteur, elle a peur de ne pas être assez répressive, elle a peur aussi nécessairement des risques de récidive ou de rater quelque chose. De toute façon, on le sait très bien. Et ça aussi, c'est les dérives du populisme pénal. Aujourd'hui, on a parfois l'impression que la justice préfère savoir quelques innocents en détention plutôt qu'un coupable en liberté.
Ce qui est une inversion de valeur. Hein.
Bien sûr.
On le rappellera. Merci infiniment, Marie Doré. Je rappelle que vous êtes avocate et que vous avez défendu l'une des principales accusées dans le dossier Tarnac et Yildune Lévy. Merci. Au revoir.
Au revoir.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Tarnac, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Kevin Pelot qui était à la technique aujourd'hui. Demain, une affaire très sensible de l'autre côté de l'Atlantique. Nous évoquerons le rôle du FBI dans la dernière campagne présidentielle aux États-Unis dans quelques minutes. Antoine Decaune, bien sûr, sur France Inter pour Pop Pop Pop. Vous êtes là, Antoine?
Je suis là, Fabrice, et rejoignez-nous vite. C'est une émission juste pour les enfants. Le studio en est plein! Venez, on vous attend, Fabrice, venez nous rejoindre.
J'arrive.
Allez, venez.
À tout de suite.
À tout de suite.